qu'en scratch, beatbox et basse claque. Juste envie de me faire plaisir, de lâcher un peu de pression. Bex, plus fait sourire et répète sans discrétion. L'attention reste au vestiaire, ridicule aussi. Pas une caricature d'MC, mais un funambule sans les filles. Avant de liberté, viens nous piquer les cieux. Je me sens vive, peu importe si je ne finis pas vieux. On a fait le vœu de me
lire. www.radio-g.fr.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM, un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette demi-heure consacrée aux droits humains. Pour animer cette émission, Philippe et Sophie, bonsoir à vous deux.
Ravi de vous retrouver.
Bonsoir.
Dans cette émission, nous allons recevoir Lila, qui va venir nous parler de l'association Igapo Project. Nous écouterons ensuite une chronique de Céline, notre veilleuse du chemin de traverse, puis nous passerons en revue l'actualité des droits humains avec les bonnes et les mauvaises nouvelles. Dans la rubrique biographie, vous sera bien sûr proposé le portrait d'une grande figure des droits humains. Mais tout d'abord, Philippe, dans ton éditorial, tu voulais t'interroger sur le devenir de la CPI après le fiasco de l'acquittement de Laurent Gbagbo.
L'ancien président de la Côte d'Ivoire a été en effet acquitté le 15 janvier de l'accusation de crime contre l'humanité. Il était le premier ex-président poursuivi. Mais le dossier monté s'est effondré au fil des audiences. Affront ultime pour le bureau du procureur, les juges ont estimé qu'il n'avait même pas besoin d'entendre la défense et son lot de témoins pour prononcer ces deux acquittements le 15 janvier. Le vide de l'accusation a été jugé suffisant, du jamais vu dans l'histoire de la Cour. Et pourtant, les juges ont alerté l'accusation dès 2013. De l'avis de nombreux spécialistes, n'importe quel procureur aurait soit retiré les charges, soit revu le dossier de fond en comble. Pas Fatou Bensouda, la procureure générale. L'acquittement de l'ancien président ivoirien, au terme de 3 années de procès et de 8 années de détention et de son proche ministre, est sans doute le fiasco de trop pour l'institution de la haie.
Et là, ce n'est pas le premier revers essuyé par la CPI.
D'abord, 3 chiffres. 20 ans. 1,5 milliard d'euros dépensés et 3 condamnations. Ces acquittements interviennent en effet après plusieurs échecs répétés du procureur. Acquittement pour l'ex-vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, accueilli en héros dans son pays. Non-lieu en faveur du président Kenyatta et de plusieurs responsables kenyans, auxquels s'ajoutent les dossiers de second couteau, refermés eux aussi, sans condamnation. Depuis ses débuts en 2002, la Cour n'a distribué aucune réparation aux victimes de crimes perpétrés par les 3 seuls condamnés de la Cour en 16 ans d'exercice, malgré un fonds pourtant solidement doté.
Et le bilan désastreux ne s'arrête pas là.
Il faut aussi déplorer la mauvaise coopération des États membres. La CPI ne dispose pas elle-même de moyens d'enquête. Elle doit donc s'en remettre aux collaborations à géométrie variable des justices des pays concernés. La liste pourrait encore se poursuivre. 15 mandats d'arrêt non exécutés, dont celui concernant le président soudanais, inculpé notamment de génocide au Darfour. Une bureaucratie envahissante, des délais anormalement longs, des procédures de nomination opaques, des juges grassement payés, mais qui se mettent en grève pour une revalorisation. Des dossiers qui jusqu'alors n'ont concerné que le continent africain, l'incapacité enfin à se saisir des drames et des crimes de guerre à grande échelle Irak, Yémen, Syrie.
Mais pourquoi ces échecs répétés ?
Eh bien, on fait à chaque fois le même diagnostic, la médiocrité des enquêtes et des stratégies de poursuite. Depuis son entrée en fonction en 2012, la magistrate gambienne a réformé son bureau et sa stratégie pénale, mais a, semble-t-il, mal identifié les erreurs de fond de son prédécesseur, Luis Ocampo. Par exemple, dans le cas de la Côte d'Ivoire, les crimes du camp d'en face, la rébellion et ses chefs n'ont à ce jour fait l'effet d'aucun mandat d'arrêt de la CPI. La réconciliation réclamée au président ivoirien a donc été forcément limitée.
Mais existe-t-il au moins une volonté de réformer cette institution ?
Ses dirigeants successifs, président et procureur, n'ont jamais rien remis en cause. Ils accusent à demi-mot les 123 États membres de la juridiction établie par traité en 98 et leur demandent plus de coopération et plus de moyens. Mais ils n'ont pourtant plus grand monde à juger. Un chef de guerre congolais et un ancien enfant soldat ougandais attendent un verdict à venir.
Et pour autant, faut-il fermer la CPI ?
La crédibilité de la Cour est largement entamée, reconnaît un juriste, mais on craint encore sa puissance symbolique. C'est en 2020 que sera nommé un nouveau procureur général. Cette future nomination apparaît comme une dernière chance pour la CPI. Sera-t-elle marginalisée, destinée à juger des seconds couteaux, ou parviendra-t-elle à reconquérir une légitimité ? La réponse est du côté des États parties et de leur détermination ou non à faire vivre cette justice internationale. La CPI est depuis sa naissance sous les feux croisés des États-Unis, de la Russie, de la Chine, d'Israël, de l'Arabie Saoudite, qui lui nie toute légitimité et combattent le statut de Rome. Mais la Cour est crainte notamment par les États-Unis, qui en septembre menaçaient ses juges, saisis depuis un an d'une demande d'enquête sur les crimes commis en Afghanistan. En décembre dernier, l'Assemblée annuelle, d'ordinaire fort consensuelle, a cette fois été l'occasion d'exprimer à haute voix inquiétude et avertissement. La CPI sera-t-elle définitivement marginalisée, destinée à juger des seconds couteaux, ou parviendra-t-elle enfin à reconquérir une légitimité.
Merci Philippe. Et vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Lila de l'association angevine IGAPO Project.
Bonsoir Lila.
Bonsoir Philippe. Bonsoir Sophie.
Bonsoir. Pouvez-vous nous présenter votre association un petit peu ?
Oui, l'association IGAPO Project est une association récente puisqu'elle a moins d'un an. Elle a un double objectif, le premier étant de faire de la sensibilisation sur les problématiques spécifiques des populations autochtones du bassin amazonien et d'autre part de servir de pont avec des organisations et des fondations plus puissantes pour rechercher des fonds qui sont destinés à appuyer des projets en local.
D'accord. Et pourquoi ce nom, IGAPO ?
Alors, IGAPO, en fait, l'Amazonie comprend plusieurs biotopes, et l'IGAPO est l'un d'entre eux. Donc, il se caractérise, pour schématiser, par des eaux noires et des sables blancs, l'eau qui est très riche en différents sédiments. Et c'est un lieu particulièrement important pour la reproduction de nombreuses espèces terrestres et aquatiques, mais en tout cas fluviales.
Alors, je sais que vous revenez d'une mission en Colombie. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la situation des populations amérindiennes ?
Elle est compliquée. Mm-hmm. Elle dépend énormément d'une région à l'autre. Il y a beaucoup de réserves, ce qu'on appelle là-bas les resguardos, qui ont été légitimées et qui sont relativement respectées. Maintenant, on a une constitution qui date de 1991, qui a été révisée cette année-là, qui est considérée comme l'une des plus progressistes au monde pour les populations autochtones. Malheureusement, ça reste la théorie, puisque dans la pratique, les méga-projets et les multinationales qui cherchent à s'implanter ont en général le dessus. Et on sait que la Colombie est un des pays les plus corrompus au monde, et à tous les niveaux de l'État, des plus petites localités jusqu'aux très hautes sphères. Donc, dans ce cas-là, les populations amérindiennes n'ont plus voix au chapitre. Et on utilise tout un tas de dérogations pour enfreindre les droits qu'ils ont normalement liés à leur territoire, à leur libre arbitre et un certain nombre de domaines.
Alors, ces populations sont victimes de violences de la part de certains groupes ?
Alors, elles sont victimes de violences de la part de groupes notamment paramilitaires, de milices privées, qui agissent pour le compte, on le sait, de multinationales notamment, et de guérillas, puisque donc, voilà, deux ans que les FARC ont déposé les armes, mais il reste des dissidences. Cela dit, a priori, autant que je le sache et autant que mes informateurs ont pu me le dire, le plus gros problème réside dans les guérillas d'extrême droite, qui ont occupé le champ libre laissé par les FARC.
D'accord.
Et pour revenir un petit peu sur l'association, quels sont les projets que vous avez pu faire grâce à cette association ?
Alors, on a donc un projet qui est plutôt orienté appui au développement de projets locaux en Amazonie. Donc là, qui est un projet qui constitue à lutter contre les dégâts occasionnés par le tourisme, qui est une manne récente, qui est arrivée depuis quelques années dans la région, enfin dans cette partie de l'Amazonie spécifiquement. Et donc là, il s'agit en fait de déployer un projet de gestion des ressources environnementales et de protection de l'environnement, puisque le tourisme, avec l'anthropisation qui s'accélère, occasionne des dégâts et également une perte potentielle du patrimoine culturel. Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, mais voilà, pour les grandes lignes. Et sinon, il y a d'autres terrains où il s'agit plus de faire de la sensibilisation. Et là, la dernière mission consistait à aller sur un terrain qui est particulièrement abandonné par l'État et qui est aux mains des paramilitaires et des guérillas, et des narcotrafiquants et des miniers illégaux. Donc vous voyez que c'est un joli sac de nœuds. Et des populations qui sont parfaitement abandonnées et qui sont en train d'être décimées par le mercure qui est versé dans leurs fleuves.
D'accord.
Donc là, il s'agit d'une mission qui va... Voilà, on va déployer une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux. On a l'appui d'autres ONG, et notamment de Survival, depuis peu de temps. Donc, ils vont nous aider à gagner un petit peu en portée, parce que nous sommes comme une petite association et récente. Mmh. Et on va également appuyer le développement d'un projet également de protection de l'environnement avec eux. Mais c'est toujours en consultation avec les populations.
Mmh. On ça n'impose pas... Pardon, ça correspond au nouveau projet qui est en cours ?
Tout à fait. Ça, c'est le projet qui va être déployé sur 2019-2020.
Mmh, d'accord. Alors, je crois que vous avez organisé plusieurs événements déjà sur Angers.
Oui, alors il y a eu notamment la rencontre à la librairie Galerie d'Art Myriagone, qui a permis de présenter un petit peu l'association, les tenants et les aboutissants.
D'accord.
Et c'était dans le cadre de la publication d'un article dans la revue Bout du Monde, qui est également une revue angevine.
Oui, qu'on connaît bien. Oui.
Mmh. Voilà. D'accord. Et bon, la plupart des événements auront lieu plutôt en 2019. On a déjà un certain nombre d'expositions qui sont prévues.
Ah oui, d'accord.
Au moins 4 en Maine-et-Loire.
Oui.
Donc, il va y en avoir dans différents lieux d'Angers et périphérie. Mmh. Et au-delà du Maine-et-Loire.
D'accord.
Voilà. Et normalement, une à Bogota en 2019 également.
Mmh. Vous avez déjà des dates un petit peu sur ces expositions ?
Alors, pour Myriagone, ce sera début juin. Mmh. Nous aurons le centre Jean Carmet, la médiathèque Jean Carmet, pardon, à partir du 1er septembre. Et ça, ce sont les seules qui sont certaines. C'est en pourparlers avec l'Université catholique de l'Ouest. Mmh. Et avec la ville de Bushmen, il va falloir que je recale ça parce que je vous avouerai que je débarque un petit peu.
Oui, je sais.
Voilà, donc, mais le calendrier devrait paraître sur le site internet.
Oui, alors moi je voulais vous poser une question aussi sur ce qui se passe au Brésil. Tout le monde sait que un monsieur Bolsonaro vient d'être investi président du Brésil. Alors, à votre avis, quelles vont être les conséquences dans la région pour les populations amazoniennes, pour leurs terres, etc.
Alors, elle s'annonce dramatique, pas seulement pour les populations amazoniennes, puisqu'il faut savoir qu'au Brésil, la majorité des populations amérindiennes ne sont pas en Amazonie. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas énormément présentes en Amazonie. Elles vont être dramatiques de toute façon, puisque c'était dans le programme du nouveau président investi. Mmh. Et ce n'est pas, de toute façon, tout ce qu'il a annoncé est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on a des groupes de militaires qui délogent les gens de force. On a déjà des changements d'investiture au niveau des entités gouvernementales qui étaient censées protéger les populations amérindiennes.
Oui.
Donc les fonds qui diminuaient d'année en année. Nous, on a des partenaires institutionnels là-bas.
D'accord.
Et là, ils ne savent pas ce qui va devenir d'eux, surtout avec des dirigeants issus de l'armée, par exemple.
Oui. Et je crois que les compétences du ministère de l'Environnement ont été transférées au ministère de l'Agriculture.
En partie, grande partie, notamment la délimitation des terres autochtones.
Ah oui, d'accord.
Bah, merci beaucoup pour toutes ces informations qui sont passionnantes. On va aller sur votre site. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour vous contacter ?
Alors, vous trouvez le site, il a un nom un petit peu à rallonge parce que malheureusement c'est un site gratuit avec ce que ça impose comme suffixe. Mmh. Mais si vous tapez IGAPO, I-G-A-P-O, project comme un projet en anglais,
d'accord.
Normalement Google et consorts et Lilo, qui est beaucoup mieux que Google, vous diront tout.
Oui, moi je l'ai consulté et je peux le recommander parce qu'il est vraiment très bien fait, il est très agréable.
Merci, et vous avez la page Facebook et la page Twitter également.
D'accord.
Merci
en tout
beaucoup.
Cas, merci d'être
merci.
Venu
merci
nous
à
voir.
Vous.
On se retrouve après une pause musicale.
Just a babe, you cannot up against the sky. Your wings won't spread up against the sky.
Retour d'endroit devant sur Radio G100 à 1.5 FM. Vous venez d'écouter Liz Wright qui chantait Little Sparrow. Mais écoutons maintenant une nouvelle chronique de Céline. Ce sera sa première de l'année. C'est notre veilleuse du centre d'hébergement d'urgence d'Angers qui est située au chemin de Traverse.
Bonsoir Valérie. C'est donc la première chronique de l'année 2019 et j'en profite pour rappeler que c'est la cinquième année. 5 ans maintenant que chaque soir, les veilleurs vivent des soirées comme celle que je vais vous raconter. C'est une veille calme malgré le froid. On vient nous aider à transporter et à installer tables et provisions. En attendant l'arrivée du plat chaud, les personnes viennent demander une boisson chaude. Chacun attend son tour avec le sourire et beaucoup ont un petit mot sympa pour remercier. Nous faisons connaissance avec plusieurs familles nouvelles. Bibi et son fils Joshua, 5 ans, du Congo, viennent d'arriver à Angers. Ils n'ont pas de place et devront rappeler à 21h. Le petit est épuisé et fiévreux. Ils vont se mettre à l'abri dans une voiture. Un homme soudanais vient déposer en voiture une famille de compatriotes qu'il a trouvés à la gare. Ils avaient leur place à l'abri de nuit, mais ils étaient perdus. C'est un couple anglophone avec un enfant de 5 ans. Une famille malienne avec leur fils Maurice, 13 mois. Ils ont une place. Nous retrouvons une femme macédonienne qui était venue il y a 15 jours amener la famille Garip. Elle était alors logée à l'hôtel Royal avec ses 2 enfants, un garçon et une fille de 12 et 13 ans. En France, depuis 2011, les voilà à leur tour au 115. Ils servent d'interprètes. Et là, Sanaj et sa petite famille est épuisée. Le papa dit que le petit Ryan s'endort à l'école et qu'il tombe souvent. Sévine et Ahmed sont arrivés de bonne heure. Sévine demande si quelqu'un peut lui procurer un pyjama et des chaussons pour son entrée à l'hôpital la semaine prochaine. La famille Mouchili est maintenant rue de la Madeleine, dans un appartement du CADA. Elle est venue dire bonjour à tous et remercier les Angevins de leur accueil. Ils repartent avec une poussette plus confortable. Visite aussi du couple Burnuchu qui est là pour le moment en répit dans un appartement et de Spartak hébergé à Montplaisir avec sa maman. Le gardien ouvre la porte un peu après 20h. Côté famille, c'est plein assez vite. Nous appellerons Jo et Jeannette pour la famille Garip chez qui ils ont déjà été accueillis. Arrive alors Madame Ousmane avec ses 2 petits, 1 an et 2 mois, persuadée d'avoir une place. Les gardiens lui affirment que ce n'est pas possible. Nous lui proposerons un hébergement chez Marc et Martine. Il reste Bibi et Joshua qui seront emmenés chez Alain. Ils emmèneront le petit au CHU demain matin. Nous laissons le site propre, à part un tas de vêtements entassés sous le préau. Fin de la veille à 21h50. Nous prévenons les jokers qui s'étaient proposés que tout le monde est à l'abri.
Et il est temps maintenant d'écouter les nouvelles et commençons par une excellente. Asia Bibi est enfin libre. La Cour suprême du Pakistan vient de rejeter le dernier recours des intégristes. Mais passons à toi Sophie, parlons de l'ONG Oxfam qui vient de publier des chiffres terrifiants sur l'inégalité dans le monde.
Et oui, il y a 10 ans commençait la crise financière qui a ébranlé le monde et précipité des millions de personnes dans la pauvreté. Depuis, la fortune des élites a atteint des sommets absolument incomparable. Le nombre de milliardaires a presque doublé. Une personne est devenue milliardaire chaque jour entre 2017 et 2018. Alors que les personnes les plus riches n'ont jamais amassé autant d'argent, la moitié de l'humanité peine à s'extirper d'une situation de pauvreté extrême et vit avec moins de $5.50 par jour. L'an dernier, 26 personnes possédaient autant que les 3,8 milliards de personnes qui composent la moitié la plus pauvre de l'humanité.
Philippe, partons maintenant au Bangladesh.
Des milliers d'ouvriers du textile qui confectionnent des vêtements pour les enseignes d'habillement mondiales ont débrayé